merci. Donc je pense que le cadre a été bien posé. Nous allons maintenant donc aborder une première partie donc sur les conséquences de la loi sur la chaîne du livre, hein, aussi bien auteurs, bibliothécaires, libraires, éditeurs, même s'ils ne sont pas représentés aujourd'hui. Et je vais donc commencer par rebondir sur la dernière question que vient de poser Nicolas Timeo, à savoir quel est l'avenir de cette loi dans un avenir proche, avec les enjeux autour justement de la Commission européenne, de Bruxelles. On sait qu'il y a des oppositions très fortes contre cette loi qui ont déjà été exprimées. Donc je vais poser la question à Rémi Gimazan, peut-être dans un premier temps, pour avoir son point de vue.
Merci Jacques, et merci pour cette présentation bien documentée et assez complète. Avant peut-être d'aborder le sujet du dialogue européen dans lequel la France se trouve actuellement, si je peux peut-être compléter par certains éléments la présentation qui a été faite des origines de la loi. Il a été rappelé que c'est une loi qui prend la suite de la loi du 10 août 1980, sur le prix du livre, peut-être pas seulement, et pour expliquer ce que je veux dire, je vais peut-être aussi présenter les différentes sources qui ont été à l'origine du texte actuel. Vous avez cité bien sûr le rapport de Bruno Patino, qui lui, à mon avis, n'était pas véritablement sous l'angle de la suite de la loi du 10 août 1980. La logique de Bruno Patino, c'est là vous l'avez assez bien dit, c'est le constat que nous nous trouvons dans une situation historique avec la dématérialisation qui est très favorable à des prises de position dominantes extrêmement rapides de la part de grands opérateurs. Et dans ce contexte, en tout cas pour le passage du rapport qui parle de la régulation par le prix, le rapport propose de mettre en place un dispositif qui permettrait aux ayants droit, au sens général, de conserver la maîtrise du prix, parce que ce qu'il observe, c'est que dès que les ayants droit, les acteurs de la chaîne de création, sont dépossédés de cette maîtrise du prix, ce sont des opérateurs intermédiaires qui précisément sont identifiés comme ceux qui prennent très très rapidement des positions dominantes, et Bruno Patino s'appuie pour cela sur les exemples de la musique. Ce sont ce type d'acteurs qui par des logiques de prix bradés, qui, in fine, jouent au détriment de la rémunération de la création, s'assurent un quasi-monopole sur le marché. On a pu l'observer avec Apple dans le domaine de la musique. Et c'est dans ce sens-là, dans cet objectif-là, qui n'était pas du tout un objectif fondamental de la loi du 10 août 1980, que Bruno Patino, à mon avis, principalement pousse son raisonnement. L'autre source, à mon avis, dans le cadre des rapports qui a poussé à la réflexion autour de cette loi, c'est le rapport Création à Internet, qui consacrait lui aussi une partie à ce dispositif. Et là, en revanche, le rapport Création à Internet se replace dans la logique qui a présidé à l'adoption de la loi du 10 août 1981, notamment une logique... si je peux revenir aussi sur les objectifs de la loi du 10 août, tels que le ministre, en tout cas, les a exprimés devant le Parlement à l'époque, ils étaient de trois natures. D'une part, il y avait l'objectif de maintien d'un réseau diversifié de détaillants sur l'ensemble du territoire national, comme il a été rappelé. Il y avait un deuxième objectif qui est assez important aussi, qui est celui d'égalité des citoyens dans l'accès aux livres par le fait qu'un prix égal pour tous les citoyens semble légitime à la représentation nationale alors. Et enfin, une troisième logique qui est celle de la défense de la création éditoriale, que je voudrais peut-être un peu préciser, puisque j'ai bien entendu le raisonnement sur le prix des best-sellers. Je pense que véritablement la logique qu'il y avait à l'époque autour de la préservation de la diversité éditoriale, c'est une logique suivant laquelle non pas tant le fait de brader les best-sellers pourrait faire une concurrence aux ouvrages de création, qu'une logique suivant laquelle le fait de brader des best-sellers n'étant possible que pour des grandes surfaces, comme on l'a vu dans le petit film, à terme, la disparition du réseau dense, qui d'une part permet l'accès égal des citoyens à la lecture, ferait disparaître également l'ensemble des relais qui permettent la vie de la création. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de livres qui se vendent dans un certain type d'endroit. si on s'achemine vers un paysage de la distribution du livre qui est stéréotypé et qui est concentré, il y a un certain type de livres qui ne se vendront plus ou qui se vendront beaucoup moins, et en se vendant beaucoup moins, les éditeurs ne pourront plus prendre les risques nécessaires pour les éditer. Et c'est donc la diversité du réseau qui est garante de la diversité de la création. C'était plutôt ça la logique, plutôt qu'une logique de prix des best-sellers par rapport aux ouvrages de création. Sur les autres pays qui ont été cités ayant des dispositifs analogues au nôtre, la Norvège malheureusement n'a pas de loi sur le prix du livre numérique. Elle a un accord professionnel de branche, elle réfléchit en ce moment à une loi. En revanche, l'Allemagne ou l'Espagne sont des pays qui ont des lois comparables à celles du 10 août 1980. Un troisième rapport que je voudrais citer peut-être, c'est dans la suite du rapport de Bruno Patino, le ministère a expertisé à travers un groupe de travail la faisabilité, la possibilité de ce que proposait Bruno Patino, à savoir mettre en place ce mécanisme. D'une part en se concentrant sur les contrats de mandat, dont on n'a pas trop parlé dans la présentation, mais c'est vrai que c'est toujours le contexte en France. Les éditeurs qui souhaitent aujourd'hui vendre leurs livres numériques ont recours, pour ceux qui regardent leur rapport avec les détaillants, à des contrats dits de mandat, des contrats par lesquels le détaillant se retrouve le mandataire de l'éditeur. Ce sont ces contrats-là qui font l'objet actuellement d'une enquête de la Direction générale de la concurrence de l'Union européenne et qui ont donné lieu aux perquisitions dont vous avez sans doute entendu parler chez les éditeurs parisiens il y a peu de temps. Ces contrats de mandat donc ont été expertisés dans ce cadre-là. Il est apparu qu'ils avaient peut-être un inconvénient par rapport à l'idée qu'on peut se faire du rôle du détaillant en France, puisqu'ils barrent toute autonomie commerciale pour le détaillant qui devient le mandataire de l'éditeur. Le détaillant ne peut pas mettre en avant, ne peut pas choisir son assortiment, et il est supposé relayer une politique commerciale qui ne peut être déterminée que par l'éditeur. En constatant cela, la ministre de la Culture de l'époque a souhaité saisir l'autorité de la concurrence de cette problématique en posant assez clairement les termes. Est-ce que les contrats de mandat sont une solution viable pour permettre la commercialisation du livre numérique tout en conservant aux acteurs de la distribution une possibilité qui est traditionnellement la leur de présenter un assortiment varié, puisque comme je viens de le dire, c'est la variété de l'assortiment, la variété des acteurs de la distribution qui est la garante pour le ministère de la Culture de la diversité de la production éditoriale. Il fallait que ces contrats de mandat le permettent. La réponse de l'autorité de la concurrence a été assez claire, et ils ne le permettent pas. Partant de cela, le rapport de l'autorité de la concurrence avait bien compris que la conséquence qu'en tirerait le ministère serait il faut légiférer, comme le conseille Bruno Patino. Et l'autorité de la concurrence, c'est un des éléments de réponse à des questions qui ont été posées, a alors émis un avis assez réservé sur la volonté que pourrait avoir le ministère de la Culture de légiférer, notamment en indiquant qu'il serait souhaitable d'abord, avant de le faire, de respecter une période d'observation d'au moins un an, et par ailleurs de limiter une disposition de cette nature à un champ précis que l'autorité de la concurrence désignait comme le livre numérisé, facsimilé du livre, puisque l'autorité considérait que c'est sur ces livres-là qu'actuellement le marché se développe en France. Les livres numériques enrichis dont on parlait ne sont pas du tout encore l'objet d'un marché, et l'autorité estimait beaucoup plus prudent de limiter une disposition de cette nature à ce qui existe actuellement et surtout ce dont le marché, la commercialisation, peut se trouver à peu près comparable à ce qu'on observe pour le livre imprimé. On reviendra sur le reste dans les débats, je pense. J'en viens aux avis de l'autorité de la Commission européenne. Donc, suite à la première lecture au Sénat, puis au premier vote au Sénat, les autorités françaises ont notifié le texte de loi à la Commission européenne, conformément à une directive qui est une directive sur le commerce électronique. La directive numéro 98/34 qui précise que à partir du moment où un État prend une règle technique, une mesure technique qui a un impact sur le commerce électronique. C'est le cas de, clairement de cette loi. L'État membre est tenu de notifier à la Commission et aux autres États membres cette mesure de manière à ce que chacun puisse formuler un avis. Le texte a donné lieu dans les trois mois qui ont suivi la première notification d'un avis circonstancié, puis d'un deuxième qui ressemble fortement de la part de la Commission européenne. La Commission exprime ses doutes quant à la... exprime ses sentiments suivant lesquels le texte en discussion alors auprès du Parlement pourrait contenir des restrictions à deux libertés qui sont très très importantes aux yeux de l'appareil normatif européen, qui sont la liberté de prestation de services au sein de l'Union et la liberté d'établissement des entreprises au sein de l'Union. Et à ces deux avis, analyse juridique, la Commission, pour demander aux autorités françaises de préciser véritablement leur analyse et leur raisonnement, posait une série de questions. Une réponse a été adressée le 16 mai dernier à la Commission et aux États membres sur ces avis. Et cette réponse insistait sur le fait que, bien entendu, un régime de prix fixe constitue en soi un régime un petit peu dérogatoire par rapport aux règles ordinaires de la concurrence, et en cela pouvait contenir des restrictions aux deux libertés considérées, liberté d'établissement et liberté de prestation de services. Cependant, dans les faits, on peut observer tout de même que ces restrictions sont limitées dans la mesure où, d'abord, les marchés du livre sont des marchés largement nationaux, et que par ailleurs, puisque si on part de la comparaison avec les régimes de prix fixes, si on compare avec du livre imprimé, si on compare avec la situation du livre imprimé, on observe qu'après tout, les pays dans lesquels il y a un régime de prix fixe du livre imprimé, comme la France, l'Espagne ou l'Allemagne, n'ont pas un marché particulièrement plus fermé aux opérateurs étrangers que les autres, on n'observe pas particulièrement d'entrave à la libre prestation de services au sein de l'Union que dans les pays où il y a un régime de prix libre comme le Royaume-Uni. Mais à partir de là, il peut y avoir des restrictions, effectivement, en droit, théoriquement, il peut y avoir des restrictions imposées à ces libertés par un régime de prix fixe. Mais le droit européen est ainsi fait qu'il permet certaines restrictions à ces libertés fondamentales inscrites dans les traités à partir du moment où le pays en question poursuit un intérêt majeur, je ne me souviens plus de la formulation exacte des textes européens, mais un objectif majeur d'intérêt général. Parmi ces objectifs, la France fait valoir que l'objectif fondamental d'intérêt général est en l'espèce la protection de la diversité culturelle, qui est à la fois largement reconnue par différents textes européens, par le traité lui-même, et par la charte de l'UNESCO dont l'Europe est partie et qui fait maintenant partie de l'appareil fondamental normatif européen. Il s'agit donc indubitablement d'un objectif majeur d'intérêt général. La Commission, à partir de là, demande à la France, certes vous poursuivez un objectif d'intérêt général, majeur, je veux bien le reconnaître, il faut me démontrer cependant que votre norme est à la fois proportionnée à cet objectif, que vous n'auriez pas pu prendre une mesure moins restrictive à la liberté, aux libertés en question, que vous ne l'avez pris par cette loi, qu'elle est adéquate, que cette loi vous permet bien de remplir votre objectif de diversité culturelle, et également qu'elle ne contient pas de discrimination par rapport entre les différentes nationalités des citoyens de l'Union. Sur le chapitre de la discrimination, la loi ne comporte de près ou de loin aucune discrimination quant à la nationalité des ressortissants opérateurs de l'Union, donc ça peut être assez simple à démontrer. Sur l'essentiel de la réponse française aux avis circonstanciés porte davantage sur le caractère proportionné et adéquat de ces restrictions. Il s'est agi de démontrer en quoi la loi, d'une part, permettait de favoriser la diversité culturelle. On parlait tout à l'heure des objectifs qui présidaient à la loi du 10 août 1981. Les trois objectifs du ministre, c'est-à-dire le dense maillage de librairies sur le territoire, l'égalité des citoyens du fait du prix unique et la défense d'une certaine, enfin d'une diversité éditoriale à travers la diversité des détaillants. La loi en question, certes, il a été rappelé par la commission elle-même dans ses avis circonstanciés qu'elle pouvait difficilement aider le maillage du territoire, puisqu'on parle en termes dématérialisés, qu'un citoyen peut tout à fait acheter un livre indépendamment du lieu d'implantation du vendeur. Cependant, l'objectif de diversité culturelle reste, à notre avis, entier, dans la mesure où la variété des opérateurs de vente au détail sur le marché du livre numérique est aussi une garantie de la diversité éditoriale. De la même manière que, suivant strictement le même raisonnement, que celui qui a présidé à la loi du 10 août 1981, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a une forte concentration, même si cette concentration se fait au bénéfice d'un opérateur qui propose tous les livres, ne permettra pas la mise en avant, l'assortiment, la diversité des points de vue, des regards sur une production éditoriale, et donc à terme se résultera sur un appauvrissement, pardon si je suis un peu long, de la création éditoriale. Donc voilà la nature de la réponse des autorités françaises. Maintenant, les risques, la réponse pousse dans ce sens-là. La commission, maintenant, forte de ses réponses à ces questions, choisira ou non de poursuivre ces questions aux autorités françaises.
Merci. On sait que pour la loi du 10 août 80, ça a été quand même très long, effectivement, que la loi ne soit finalement avalisée quand même par l'Europe. Hein. Il y a encore eu des retours assez récemment à ce sujet. Au-delà du contentieux, vous l'avez abordé déjà, et je vais me tourner aussi vers mes autres interlocuteurs, par-delà ce qui vient d'être dit, l'extraterritorialité pose quand même la question dans le domaine numérique de manière un peu différente. Dans le sens où il y a des opérateurs internationaux qui sont déjà structurés. On les a cités, Amazon, Apple, Google, qui existent déjà. Google est en train de préparer une librairie numérique, ils ont ouvert même. Ils ont arrêté de numériser la presse, donc on voit que leur objectif de plus en plus, c'est de vendre, et pas simplement de mettre en place une bibliothèque œcuménique gratuite, accessible à tout le monde, pour ceux qui en auraient douté. Mais Amazon, de son côté, aux États-Unis, a déjà phagocyté le marché et s'impose comme un opérateur très conséquent. Et la question est dans cette mesure-là, dans quelle mesure on peut empêcher Amazon, en étant basé aux États-Unis, d'avoir des serveurs en français, de vendre des livres en français, tout en étant basé aux États-Unis, donc n'ayant aucune présence sur le territoire français. Mais permettons néanmoins la vente directe à des clients français.
Alors, peut-être une petite observation sur de vocabulaire sur cette clause d'extraterritorialité. En réalité, il est préférable de ne pas trop utiliser cette tournure-là, puisqu'en réalité la loi, en tout cas que vous avez sous les yeux, dans la manière dont elle est rédigée, n'a d'application que territoriale. Il s'agit d'application au marché français, et elle ne porte d'obligation que pour les éditeurs établis en France ou aux opérateurs qui s'adressent au marché français. En cela, c'est pas forcément contradictoire d'ailleurs avec le droit européen. Je vais faire l'analogie avec le droit fiscal européen. À compter de 2015, par exemple, pour le commerce en ligne, la fiscalité applicable aux transactions en ligne sera celle du pays du preneur. Ça veut dire que à partir de 2015, pour peu que vous achetiez un livre numérique à Amazon, s'il est à ce moment-là, s'il commercialise des livres numériques sur le marché français, même établi ailleurs, même établi au Luxembourg ou aux États-Unis d'Amérique, enfin, même établi au Luxembourg, la fiscalité applicable, la TVA applicable, ce sera la TVA française. Et elle ira dans les caisses de l'État dans lequel se trouve le preneur. Donc c'est une logique à laquelle l'Europe n'est pas tout à fait étrangère. Puisque pour la TVA, cette démarche peut être faite. Il ne s'agit pas là d'extraterritorialité.
Euh, C'est juste que techniquement, c'est pas contrôlable de.
Alors pour le moment, c'est ainsi qu'est fait le droit européen. Techniquement, ils sont en train de réfléchir. Il y a un groupe de travail sur le commerce électronique qui, en ce moment, réfléchit comment est-ce qu'on va s'y prendre. Est-ce qu'il s'agira de prendre. Est-ce que ce sera la carte bleue ? Puisque les achats sur Internet se font par la carte bleue. Est-ce que ce sera la nationalité de la carte bleue qui fera foi ? L'adresse IP de l'acheteur ? C'est vrai qu'aucune solution n'est véritablement parfaite, mais ils sont. Enfin.
Non, c'est juste une question naïve d'acheteurs sur Internet aussi, qui voilà. Du coup. Ça me semble assez étrange comme mais bon enfin c'est juste
c'est le droit européen donc il n'y a pas que les Français qui prennent des lois qui sont complètement incompatibles avec la réalité. L'organisation fiscale européenne sera comme ça en 2015. À partir de là, sur la puissance de ces opérateurs là encore, ces acteurs sont puissants certes à partir du moment où ils ont des contenus, c'est pour utiliser le terme du rapport Patineau, c'est-à-dire à partir du moment où les ayants droit, les titulaires des droits, ont accepté de signer quoi que ce soit avec eux. En l'espèce, il me semble que ni pour Amazon, ni pour Google, un petit peu pour Apple maintenant, les titulaires des droits ont signé massivement et spontanément des contrats avec ces opérateurs. Et la loi, finalement, sécurise un petit peu le cadre dans lequel ces contrats pourraient être signés aussi.
La question, c'est peut-être aussi qui manque en France, et là je vais me tourner vers. C'est vrai qu'il nous manque vraiment les éditeurs, mais peut-être que les libraires pourront nous répondre. Il nous manque aussi, certainement aussi, des opérateurs susceptibles d'avoir une force de vente importante d'une diversité de livres numériques. Bien qu'il y ait une plateforme là, qui vient d'ouvrir, qui regroupe les libraires indépendants, qui s'appelle linéalibraire.com. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus comment va se structurer le marché de la vente de livres numériques en France pour avoir des contenus suffisamment conséquents et permettre une véritable diffusion dans un cadre légal?
Donc oui, Milieu Libraire, c'est pas tous les libraires, ou pour l'instant, c'est un certain nombre de libraires qui sont mutualisés pour ouvrir un portail donc de Milieu Libraire. Qui vendra des contenus numériques, pas que, qui vendra aussi du livre physique par Internet, et qui donnera aussi la possibilité à chaque libraire qui adhérera d'avoir son propre site, qui sera, donc ça sera Milan Libraire qui vendra du contenu numérique, mais aussi chaque libraire. La librairie Passage vendra aussi son contenu numérique, qui sera, disons, remonté sur Milan Libraire, mais ça sera neutre pour l'acheteur. Après, je dirais l'offre qui sera faite, l'offre elle sera au maximum de ce que les éditeurs nous proposeront, parce que l'offre elle est faite par les éditeurs. D'abord c'est à eux, le catalogue actuellement en France tourne entre 40 et 60 000 titres suivant les chiffres, mais il y en a qui disent beaucoup moins parce que c'est aussi la qualité des livres numériques, de la numérisation qui a été faite. Donc il y a aussi un problème au niveau de l'édition, c'est d'arriver à numériser tout leur. Bon, les nouveautés, ça peut se faire au fur et à mesure, mais il y a tout le fond à rattraper. Et nous, libraires, on ne peut offrir que ce qui existe. On ne peut pas faire nous-mêmes le travail. Donc l'offre est. Et si on parle des gros, ceux qui peuvent arriver, ils seront dans le même cas que nous. Déjà, en effet, il n'y a pas de contrat signé de beaucoup d'éditeurs, donc pas du tout signé de contrat pour l'instant de distribution, de diffusion de livres numériques avec les gros acteurs, et ils seront toujours soumis à ce qui existe. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des très très beaux catalogues aux États-Unis, en anglais, dans d'autres pays, mais bon, a priori, les livres vendus en France, les livres numériques vendus en France, sont quand même majoritairement en français. Donc, bon, pour l'instant, c'est les éditeurs français qui les fournissent. Après, donc, le Milan Libraire, c'est un début de collectif pour les libraires. Il faudra aller au-delà parce que pour l'instant on est face à un marché qui est minime. Quand la loi va entrer en ligne et quand les gros vont arriver, ça va se développer sans doute. On ne sait pas à quelle vitesse, on ne sait pas comment. Et les solutions techniques évoluent très vite aussi. Donc il y aura forcément d'autres réponses à amener. Et c'est un des points qui nous pose souci parce que les réponses techniques, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais bon, pour l'instant elles sont d'un certain type pour nous, mais les réponses techniques les plus performantes et tout, qu'auront les gros acteurs américains, demandent des investissements financiers que sont bien incapables de faire même un collectif de libraires, même s'il est élargi à presque toute la toutes les distributions de livres en France. C'est des sommes, je dirais, astronomiques.
Alors là, je vais me retourner de nouveau vers le ministère, parce qu'il me semble qu'il y a eu des financements justement accordés par le ministère de la Culture pour accompagner les éditeurs et pour permettre la numérisation d'ouvrages sous droit. Donc, pour accompagner le développement de l'offre de contenu.
Oui. Oui. Vous voulez que je vous expose le
dispositif rapidement.
Rapidement. Oui, ce sont des financements qui sont intervenus à partir de 2007 et à partir d'une augmentation de l'assiette d'une taxe qui assure une partie des ressources du Centre National du Livre. Initialement, c'est parti du mouvement dont vous avez sans doute entendu parler ici, qui a été lancé à partir de 2005 par Jean-Noël Jeannet, alors président de la Bibliothèque Nationale de France, en réaction à l'annonce faite en décembre 2004 par Google de sa volonté de numériser en masse dans la bibliothèque américaine des livres, d'ailleurs, dont certains sont sous droit. La France alors a souhaité se donner les moyens d'entrer dans une démarche également de numérisation de masse en vue de contribuer à la constitution d'une bibliothèque numérique européenne. Et la politique proposée alors par le ministère de la Culture et de la Communication et qui a été appliquée par le CNL est de réserver une part des crédits ainsi affectés à la numérisation de masse de la Bibliothèque nationale de France à la constitution d'une offre contemporaine des éditeurs à travers un mécanisme d'allocation de subventions pour les projets de numérisation des éditeurs. Donc au départ, ce dispositif a eu un succès inférieur aux attentes. Il n'y a pas eu un enthousiasme et un dépôt massif de dossiers de demande d'aide à la numérisation. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Le CNL cette année a inscrit à son budget prévisionnel 4 millions d'euros pour ce dispositif de soutien à la numérisation des collections contemporaines des éditeurs, sachant qu'ils sont aidés sur leur projet à 50% des coûts, ce pourcentage pouvant aller jusqu'à 70% suivant la nature des formats produits. Les formats structurés en XML sont plus volontiers aidés que le simple PDF.
Pas sur les auteurs pour l'instant, mais sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la commission et sur le prix unique. S'il n'y a pas d'offre légale aujourd'hui, enfin d'offre légale importante de fichiers numériques, c'est aussi parce que pour l'instant il n'y a pas d'encadrement de ce marché. Je crois que les éditeurs, s'ils ont été un peu réticents, je ne parle pas à leur place, mais c'est vrai qu'ils sont allés quand même un peu à reculons sur le numérique, c'est aussi parce qu'ils avaient des craintes, d'abord il y avait des investissements importants, mais parce qu'il y avait des craintes sur la place que pourraient prendre certains opérateurs et le fait que ce n'est plus eux qui auraient la maîtrise du prix et donc de la diffusion du livre. Et ça, c'est mauvais, je pense, pour l'ensemble de la chaîne du livre. Le prix unique du livre, en tout cas la loi qui vient d'être passée, c'est une première étape importante pour justement favoriser cette offre légale. Et là, il ne faut pas se tromper de combat. La loi sur le prix unique du livre, ce n'est pas une loi contre Amazon, comme la loi de 80 n'était pas du tout une loi contre la FNAC, contre Leclerc. C'est une loi qui permet de favoriser le plus possible la diffusion du livre et si possible la diversité, c'est-à-dire d'empêcher de mettre entre les mains d'un petit nombre d'opérateurs cette politique de diffusion. Donc il n'y a rien qui est fait contre les uns pour les autres, c'est juste que tout le monde puisse avoir sa place sur ce marché du numérique. Et pour ça, il y aura d'autres étapes à faire. Il y a une grande étape sur laquelle travaillent évidemment les pouvoirs publics, qui est le taux de TVA réduit pour le livre numérique. Et de la même façon que pour le taux de TVA réduit pour le livre numérique, on obtiendra sûrement plus facilement quelque chose qu'on aura convaincu les autres pays européens. Je pense que sur le prix unique, si on veut aussi convaincre la Commission, c'est en espérant convaincre d'autres pays et d'autres États membres d'aller aussi sur ce volet d'un encadrement du prix du livre numérique, comme ils l'ont fait, comme le rappelait Rémi Gimazan tout à l'heure, sur le livre papier.
Merci pour ces précisions. Puisque vous avez pris la parole, je vais vous la redonner tout de suite. J'aurais voulu avoir quelques éclairages sur les contrats numériques qui lient les auteurs aux éditeurs, justement, et notamment par rapport à l'article 6, donc qui concerne la rémunération des auteurs, l'article 5, pardon, qui concerne la rémunération des auteurs. Article 6. Article 6, oui, qui intègre dans le code de la propriété intellectuelle et qui garantit donc une rémunération juste et équitable, donc qui a été abordée lors de l'introduction. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots et nous dire un petit peu en quoi, selon vous, et comment vous envisagez de faire respecter cette rémunération juste et équitable dans le cadre de ce dispositif?
Peut-être un mot sur la loi en général, c'est-à-dire que les auteurs, les associations qui représentent les auteurs, et en particulier la EGDL, sont extrêmement favorables à une loi d'encadrement du prix du livre, pour les raisons que je viens de dire, et plus largement, il y a vraiment deux raisons principales pour les auteurs. La première, c'est que c'est une loi qui a montré, dans le cadre de l'univers physique, ses mérites quant au maintien d'une diversité de l'offre, et si on n'a pas une diversité de l'offre, et en particulier de la librairie indépendante, alors on n'a pas une diversité de la publication et de l'édition. Et si on n'a pas une diversité de l'édition, on n'a pas une diversité des auteurs derrière. Donc il y a un sort qui lie complètement, je crois, les auteurs et les libraires. Et il ne faut surtout pas qu'à l'aune du numérique, ce lien soit rompu. Donc ça, c'était le premier. En tout cas, rien que pour ça, il était important à nos yeux qu'il y ait une loi d'encadrement. La deuxième chose, c'est que ça permet pour les auteurs d'avoir une assiette de référence sur laquelle sont calculés leurs droits d'auteur. Ça ne sert à rien de se battre pour avoir 15%, 20%, 10%, 60% si l'assiette sur laquelle vont s'appliquer ces pourcentages n'est pas fixe. C'est bien beau d'avoir 60% avec un éditeur numérique si le prix du livre est de 0,50 centimes. On est bien content à la fin. Donc au moins pour ces deux raisons, les auteurs ont été depuis le début favorables à une régulation sur le livre numérique. Par ailleurs, on a été évidemment un peu surpris, mais agréablement surpris, par l'initiative des sénateurs au départ d'introduire dans la proposition de loi initiale, qui n'en parlait pas, un article spécifique, c'était l'article 5 bis au départ, qui est devenu l'article 6, sur les droits d'auteur et sur le fait que les droits d'auteur... Enfin, au départ, c'était pas tout à fait cette rédaction-là, mais on est arrivé à ça, qu'il y a un principe d'une rémunération juste et équitable pour les auteurs. C'était la première fois, puisque dans la loi de 80, il n'y a rien sur le droit d'auteur, donc c'était la première fois que pour une loi d'encadrement économique, les parlementaires s'intéressaient au sort des auteurs, et ça, on ne pouvait que l'accueillir favorablement. Donc on a repris, on a essayé dans les différents débats qu'il y a eu au Parlement, donc soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, d'appuyer cet article-là. Autant vous dire qu'au départ, les éditeurs et les réunions qu'on a eues au ministère peuvent le montrer, n'étaient pas favorables du tout à ce qu'on parle des droits d'auteur dans cette loi d'encadrement économique. Alors même qu'on discutait, ou en tout cas qu'on essayait de discuter auteur avec les éditeurs sur la question plus générale de la rémunération dans le cadre de la vente de livres numériques, et qu'on a vu assez rapidement que sur la question de la rémunération, comme sur d'autres points d'ailleurs, on n'obtiendrait pas gain de cause. Aujourd'hui, notre demande, elle était pourtant pas énorme, hein, elle était que pour les auteurs dans le cadre d'un livre numérique, les auteurs touchent en valeur absolue autant que ce qu'ils touchent sur la vente d'un prix d'un livre papier. Or aujourd'hui, ce que proposent les éditeurs, et c'est ce qu'ils nous ont redit, c'est de reprendre des pourcentages équivalents à l'univers imprimé pour les calquer sur l'univers numérique. Alors évidemment, comme on sait que le prix du livre numérique va être forcément, il est déjà inférieur pour la petite offre légale qui existe, mais il va être inférieur. Alors est-ce que ça sera 30%, 40%, 50%, il y a même des initiatives en bande dessinée où on a divisé le prix du livre papier par 5 en fichier numérique. Évidemment, si on maintient le même taux de droit d'auteur, on a une baisse considérable, d'autant plus qu'encore une fois, c'est un droit d'auteur qui est basé sur le prix hors taxe, donc avec une TVA à 19,6, la perte est encore plus importante. Si on prend un exemple sur un prix de vente TTC avec une baisse de 30% du prix de vente, avec un taux moyen de droit d'auteur de 10%, la perte sèche pour l'auteur, c'est de 40%. Alors, s'il y a un basculement important dans certains secteurs éditoriaux, ça veut dire qu'à un niveau de vente équivalent, l'auteur perd 40% de ses revenus, qui sont déjà pas énormes. Deuxième point dans les contrats d'édition qui nous sont proposés, en tout cas qui sont proposés aux auteurs, rien n'est envisagé sur les autres types de rémunération, les offres groupées, les abonnements, les recettes issues de la publicité, etc. Au mieux, silence, au pire, l'auteur ne touchera rien. Donc ça, là-dessus non plus, on avait une crainte importante de ne pas avoir de garantie du tout sur le calcul et sur le montant de la rémunération. Donc cet article feu 5 bis et aujourd'hui 6 pose un principe qui est pour nous vraiment extrêmement important d'une rémunération juste et équitable. Je rajouterai un point en plus sur ce qui n'a pas abouti dans nos discussions. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose du coup qui a abouti dans nos discussions. Aucune avancée sur la durée de la cession des droits. C'est-à-dire que non seulement les éditeurs disent on va vous payer autant, c'est-à-dire moins sur le fichier numérique, mais en plus, comme on ne sait pas ce qui va se passer dans les 2 ans ou dans les 3 ans à venir, on voudrait avoir vos droits pour 70 ans post-mortem. La durée quasiment de l'éternité. Ça, c'est pratiquement inadmissible pour les auteurs, d'autant plus qu'ils n'assurent absolument pas de rémunération juste et équitable pour l'instant pour les auteurs. Donc, ensuite, on est nous, effectivement très satisfaits de l'article qui en plus a été renforcé sur un autre point, qui est un point qui est déjà problématique dans l'univers papier, mais qui le sera encore plus dans l'univers numérique. C'est la réédition des comptes. Je ne sais pas si parmi vous, il y a déjà des gens qui ont aussi déjà été auteurs. Une grande difficulté pour obtenir de manière claire les comptes des éditeurs et savoir ce que l'éditeur doit à l'auteur. Donc le principe qui a été aussi mis rajouté dans cette loi, d'une réédition des comptes qui soit explicite et transparente, est extrêmement aussi importante pour nous. Alors c'est qu'une étape, évidemment, ce sont des principes, ça peut rester des grands principes, mais ça ouvre pour nous quand même des portes importantes, et pour la première fois, encore une fois, c'est inscrit dans la loi, c'est même inscrit, puisque c'est un article spécifique de la loi, puisqu'elle renvoie à un article du Code de la propriété intellectuelle, donc ces articles-là figureront désormais dans le Code de la propriété intellectuelle, à nous d'en faire maintenant le meilleur usage, un, pour qu'il soit, pour qu'il se traduisent dans les contrats d'édition et dans les avenants aux anciens contrats, parce qu'il y a cette question-là aussi qui se pose aux auteurs, et deuxièmement, de faire attention à ce que ça se traduise dans les faits par un moyen de contrôle, une évaluation, ça c'est je ne sais pas exactement comment ça pourra se passer, mais c'est à nous de voir comment maintenant le traduire dans les faits. Il y a pour ça plusieurs choses qui peuvent se mettre en place. On réfléchit à un contrat d'édition type pour le numérique avec le syndicat national de l'édition. Il y a évidemment les discussions qu'on peut avoir, même si elles ne portent pas collectivement leurs fruits individuellement. On a vu que déjà les taux de droits d'auteur, en tout cas pour un certain nombre d'éditeurs, commençaient un peu à augmenter, toujours en proportion, en valeur absolue, ça reste évidemment à peu près, même un peu inférieur à ce qu'un auteur pouvait recevoir dans le cadre du livre imprimé. Mais on a des taux qui sont aujourd'hui de 15, voire de 20% sur les livres numériques pour un petit nombre d'éditeurs, plutôt des éditeurs importants et emblématiques et plutôt des éditeurs indépendants. On a l'idée aussi éventuellement d'une modification du Code de la propriété intellectuelle, puisque ça c'est un article qui est rajouté dans le CPI, mais pour nous c'est évidemment absolument impossible de dire voilà, on a fait ça, on s'arrête là et on ne touche plus au Code de la propriété intellectuelle. Le prix unique du livre, c'est un moyen d'encadrement du marché du livre qui a fait ses preuves, mais le CPI tel qu'il a existé, c'était aussi un moyen d'encadrement du marché du livre qui a fait ses preuves. Et lui non plus, pas plus que la loi de 81, est adapté au marché du numérique. Quand on parle d'édition en nombre, qu'est-ce que ça veut dire dans le numérique? Quand on parle d'épuisement des stocks, enfin voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le commerce tel qu'on va le connaître. Donc il y a, on va dire au moins, un grand toilettage à faire du CPI. Et puis il y a l'étude des usages, et là on a deux instances qui me semblent importantes pour vérifier justement la mise en pratique de ce principe. Un, une instance de liaison qui existe entre le syndicat national de l'édition et la société des gens de lettres, qui a pour vocation de regarder un certain nombre de cas dans lesquels il n'y a pas de respect des règles qui ont été émises soit par le code de la propriété intellectuelle, soit par les codes des usages, qui ressemble très largement à ce qui existe entre les éditeurs et les libraires dans le code des usages professionnels, pour voir si notamment sur le niveau des remises, etc., tout se passe correctement, et Dieu sait s'il y a des choses à dire. Et puis l'article 7 de la loi, parce qu'on parle des droits d'auteur dans l'article 6, il faut que je m'y fasse, mais pas seulement, alors c'est peut-être même plus l'article 7 maintenant, mais dans l'article qui prévoit un rapport annuel, l'article 8 qui prévoit un rapport annuel au Parlement, et dans lequel cette notion d'une rémunération juste et équitable et fait partie aussi des objectifs. Et là, c'est vraiment important pour nous que dans ce rapport annuel, et je sais toutes les difficultés de faire un rapport annuel, donc je ne jetterai pas la pierre ni à Rémi ni à ses équipes s'il n'y a pas forcément tout de suite un rapport qui est fait, mais c'est vrai que c'est pour nous un endroit neutre qui permettra de voir, pour les auteurs, mais pour l'ensemble de la chaîne du livre, parce que cette loi, en fait, finalement, qu'est-ce qu'elle a comme vocation? C'est de veiller à ce que la répartition de la valeur ajoutée se fasse pas au détriment d'un des acteurs. Donc, que ce rapport annuel veille bien, justement, à ce que la marge qui sera faite par les uns et les autres, la valeur ajoutée qui sera dégagée par ce marché numérique, qui pour l'instant balbutiant, mais qui va forcément représenter un point un jour, profite à tout le monde. Et là, je voulais faire juste une remarque par rapport aux assises de la librairie qui ont eu lieu dans cette même ville il y a une semaine à peine, je crois. Quelque chose qui m'a fait un peu peur à la toute fin de ces assises. Les assises étaient parfaites. À la toute fin des assises, une remarque du responsable de la diffusion numérique de chez Gallimard. Pourtant, en général, ce ne sont pas les éditions Gallimard qu'on pointe du doigt en premier quand on a des récriminations à faire aux éditeurs, qui répondait aux libraires en leur disant écoutez, moi, je voudrais bien vous faire des remises plus importantes, c'est pas de ma faute, mais vous savez, les auteurs demandent tellement sur le numérique que malheureusement, je ne peux pas vous donner plus que ce que je vous donne. Évidemment, quand on discute avec eux, ils ont le discours, vous avez compris, mes pauvres amis auteurs, si j'avais pas besoin de donner autant aux diffuseurs et aux libraires, on pourrait vous donner. Donc il faut absolument pas, je crois que sur cette question du numérique, je bouclerai comme ça avec ce que je disais au début, il faut absolument pas que sur cette question du numérique, l'édition en général, mais peut-être d'autres opérateurs et les pure players, comme on les appelle, quelle horrible expression, les pure players du numérique, jouent la carte d'une... se mettre les uns contre les autres, certains éléments, probablement peut-être les plus faibles, ça dépend lesquels, mais les plus faibles de la chaîne du livre, et il faut absolument que les auteurs et les libraires, et je ne le dis pas parce que Françoise Chariot est à côté, elle sait que je le pense vraiment, il ne faut surtout pas qu'on joue ce jeu-là et qu'on se mette à dire c'est la faute de l'autre, d'un autre bout de la chaîne, si on n'arrive pas à avoir une rémunération ou une rétribution normale dans la chaîne du numérique. Il ne faut absolument pas que ça arrive, parce que je crois que les auteurs, je suis persuadé que les libraires ont besoin des auteurs, mais je suis persuadé aussi que les auteurs ont besoin des libraires.
Alors je vais rebondir justement sur les libraires, justement comment envisage-t-il de se positionner. Donc on a parlé de la plateforme libraire, mais quel justement modèle économique, comment vivre dans un univers numérique, quel argent, enfin justement, à partir du moment où la production de livres numériques se fait chez les éditeurs, où il existe aussi des plateformes de distributeurs qui se sont mises en place, comment les libraires vont-ils se faire rémunérer dans le cadre de la diffusion de livres numériques? Est-ce qu'il y a des accords spécifiques avec les éditeurs? Est-ce qu'il y a des choses en place? La loi n'aborde pas ce sujet-là, contrairement à celui des auteurs, ou assez peu? Je vais vous laisser répondre. Oui, mais ça concerne uniquement la remise, mais ça ne... Oui, c'est le fondement de la...
C'est la rémunération des libraires, hein, c'est la remise. Donc il doit tenir compte de l'importance des services qualitatifs rendus par les libraires pour la promotion et la diffusion du numérique. Donc exactement le même, à peu de choses près, de ce qu'on a dans la loi de 81 sur la rémunération, sur la remise accordée aux libraires, sur lequel on se bat toujours pour que ça soit appliqué le plus possible. Mais pour l'instant, les remises pratiquées donc sur les prix de vente, donc pour l'instant, pour parler contrat de mandat, mais je ne sais pas si ça changera, si ça augmentera avec le prix unique, ça m'étonnerait dans un premier temps, les remises sont de 21 à 25%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Je réfléchis en même temps, à part peut-être quelques gros libraires dont je peux parler un petit peu après. Enfin, il y en a qu'un, il a arrêté d'ailleurs, je crois, c'est ça. Donc nous, libraires, on passe par des prestataires techniques qui agrègent un peu tous les... Puisque les distributeurs n'ont pas une seule plateforme où ils mettent un seul entrepôt où ils mettent leurs fichiers numériques. Donc il faut qu'on ait, après eux, il faut qu'il y ait... quelqu'un qui nous fournisse des livres depuis chez Hachette Numilog, depuis chez Gallimard Seuil Eden, depuis le hub de Dilicom, et qui, pour que nous, on puisse avoir une proposition vis-à-vis de notre public, sur un seul panier, ils peuvent acheter de n'importe où viennent les livres. Parce qu'à un moment, c'était, fallait faire un achat pour acheter chez Hachette, un autre achat pour acheter, et pour nous, libraires, c'était pas possible de proposer ça au lecteur. Donc on a besoin pour l'instant d'un prestataire entre les deux et il y a tout un service après-vente qui est très très lourd, qui est assumé. Il faut savoir que ça coûte déjà 9%. Donc sur les 21, on a déjà 9%. En plus, on a quand même besoin de faire des investissements techniques, parce qu'il y a toujours des locations à payer tous les mois à droite à gauche pour assurer pour assurer aussi ces services. Bon, faut, si on vend sur Internet par le biais d'un site, on a le coût du site. Il y a des libraires qui ont le système d'avoir des bornes de téléchargement dans leur librairie. Ça a aussi un coût. Il y a le système qui, dont on parlera sans doute après, qui peut se développer, qui est donc pour pour parler des supports de lecture, donc il y a les fameuses liseuses ou e-book électroniques, enfin ça a plusieurs noms, ou l'équivalent des iPads, etc. Les tablettes, voilà. On pourrait être amené à vendre ce genre de matériel, mais pour avoir notre site dessus, c'est pareil, il faut payer le fournisseur de la tablette, il faut payer la société qui gère de nous avoir implanté le site, il faut payer, je regardais tout à l'heure, il demande aussi 2% pour assurer les transactions par carte bancaire. Donc vous voyez, sur les 21%, dans certains cas, il nous en reste 2-3, et on est supposé, nous, faire un travail d'animation, de mise en avant, de présentation, et en gros, on n'a plus rien pour faire ça. Donc c'est vrai qu'il y aura forcément... Il y aura forcément un problème économique là-dessus un jour. Mais on tient à être présent, parce que pour l'instant, le marché étant tellement petit, il faut qu'on soit là. Et je crois qu'on peut dire aussi que les libraires, à travers le syndicat, ont été présents depuis le début des discussions et de la réflexion sur le numérique. Ils ont participé à tous les rapports. Et donc, ce n'est pas du tout un sujet sur lequel les libraires arrivent en dernier et se désintéressent de ça.
Il y avait une question ?
Juste pour savoir, par rapport à justement à cette difficulté de mettre en place un point commun d'accès à des livres numériques pour pouvoir les redistribuer dans les librairies ou sur le site des librairies, question un peu naïve, mais Minéa Libraire ne peut pas justement jouer ce rôle d'opérateur.
Minéa Libraire s'est adressé à un opérateur technique, parce d'accord. Que Minéa Libraire, un opérateur technique, il s'appelle Ipagine, il travaille depuis des années là-dessus.
D'accord. Ouais.
Nous, on n'avait pas les compétences techniques pour le faire. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais... C'est énorme et c'est aussi beaucoup d'investissements. Emilien Libraire, c'est déjà beaucoup d'investissements. Nous sommes beaucoup aidés. Mais voilà, c'est pas...
Je peux juste compléter parce que il me semblait justement qu'il y a une plateforme de distribution numérique s'était mise en place. C'était le Hub d'Illicom. Et ce que il me semble que ça c'est un enjeu très fort justement parce
oui,
que
tout à fait.
S'il n'y a pas ce hub, effectivement on peut pas imaginer que des acteurs indépendants, que ce soit Minéa Libraire ou d'autres, puissent effectivement assumer la vente de fichiers numériques. Et pour moi ça c'était quelque chose d'opérationnel. Après j'avais une autre question sur les 21 à 25%, parce que j'ai l'impression qu'il y a une bataille actuellement, c'est-à-dire est-ce que c'est des prix, c'est des marges fixes ou c'est variable, parce qu'il me semble que dans les contrats de mandat qui sont négociés, effectivement il y a un enjeu sur le fait de où est-ce que c'est marqué, sur la remise commerciale, sur ce qu'on appelle service qualitatif, et alors là c'est le flou artistique. C'est-à-dire moi j'entends parler de gens qui ont des marges de 10% avec 15% de marge de fluctuante, enfin des chiffres hallucinants. Et après du coup comment se positionner en tant que libraire indépendant sur ces marges-là, sachant que les bookstores d'Apple et le Kindle d'Amazon vont imposer 30%. Donc est-ce que ça veut dire que du côté de l'interprofession on attend que ces acteurs-là imposent 30% pour unifier tout le monde à 30% sur la vente de livres numériques?
Je crois surtout qu'on était, pour l'instant on est toujours dans le contrat de mandat, donc on attendait, il faut attendre l'application de la loi, puisque là on sera dans un autre système. Et puis non, on ne va pas attendre pour avoir plus, c'est sûr, mais
il me semble qu'il y a un enjeu fort sur le hub d'Illicom et ce sera intéressant.
Alors sur le hub, ce que je veux dire, c'est que nous, il est un libraire, quand on a commencé à réfléchir à ça, le hub était encore, c'est très très récent. Donc on a signé des choses, mais les choses ne sont jamais définitives, ça bouge tout le temps.
Et ça me semble, je voudrais pointer.
Et pour l'instant, le hub d'Illicom, juste, je t'interromps, le hub d'Illicom, c'est très bien pour la transmission, il n'y a aucun service après-vente.
Ça pose la question des DRM, parce que...
Exactement, mais alors là, justement, donner juste un petit exemple, donc d'un libraire qui fait partie du syndicat, Charles Kermarek, Dialogue à Brest, qui vendait des fichiers numériques sur son site, qui avait fait son propre système à lui pour avoir justement les fichiers de tous les distributeurs, et il a arrêté de le faire à cause des DRM qui causaient tellement de problèmes de chargement pour les clients, qui passaient, comme il dit, ils vendaient un fichier, il passait 20 minutes, enfin, un de ses libraires passait 20 minutes ou son informaticien à 30 minutes pour un fichier vendu. Quand vous voyez les prix des fichiers, la marge que ça dégage, c'était plus possible. Donc ça pose un autre problème. Donc c'est voilà, c'est tous ces problèmes qui ont été évoqués d'ailleurs aux rencontres. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les rencontres nationales qui ont eu il y a 10 jours. C'est juste de dire pour que cette volonté de la profession de libraire de s'unir pour aborder ces problèmes, je crois qu'elle s'est très bien manifestée. Donc pendant ces rencontres, on était très nombreux et c'était des rencontres organisées à l'initiative des libraires et ça a été un très très grand succès. Donc ça laisse présager voilà, qu'on arrivera à faire des choses collectives.
Merci. Et donc on va peut-être boucler cette première partie de la table ronde avec Dominique Lahry. J'ai envie d'interroger toujours sur le modèle économique du prix du livre numérique, de manière générale, hein, sans que ça concerne là, pour l'instant les archives, les bibliothèques et la documentation, mais sur le dernier communiqué du mois de mai, qui concerne notamment l'idée qu'il faille, en gros, que le modèle qui est proposé serait un peu dépassé et que le livre numérique n'est pas homothétique au livre imprimé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, alors qu'il y avait un accord de l'interprofession jusqu'à il y a très peu sur le prix unique du livre papier, hein, puisque ensemble, les bibliothécaires, les libraires, les auteurs et les éditeurs ont défendu ensemble la loi Langue, hein, dans des articles de presse encore récents. Donc, par contre, sur le prix du livre numérique, il semble y avoir quelques désaccords.
Alors, si le communiqué a permis cette interprétation, c'est qu'il est mal rédigé. Faut que je relise. Faut faire attention, l'IABD, lors de la loi d'AFSI comme ici, a des interventions très ciblées. Donc on ne parle pas de ce dont tout le monde parle. Alors quand on nous interroge, les gens nous interrogent, c'est très comment dirais-je, décevant. Lors de la loi d'AFSI, il y en a qui voulaient absolument nous dire qu'est-ce que vous en pensez de la licence globale, etc. On a répondu, je répondais, mais c'est pas notre sujet. Alors le fait que l'interprofession du livre veuille garder une maîtrise sur la chaîne de valeur et puis aussi se soucier de la diversité de l'offre, ça suscite la sympathie, en tout cas des bibliothécaires, hein, c'est l'interprofession, en tout cas des bibliothécaires, donc c'est ce qui a motivé la signature du président de l'ABF, hein, vice-président, avec le président du SNE, du SGDL et du SLF dans cette tribune du Monde qui, par une ironie de l'histoire, n'a été publié que sous forme numérique. Alors, l'édition numérique du Monde, pour cause de grève, je crois. Hein. L'édition papier, ce jour-là, n'est jamais paru. Voilà, petit clin d'œil de l'histoire. Donc, nous n'allons pas nous permettre de donner une opinion là-dessus des affaires pour lesquelles nous ne sommes pas partie prenante financièrement. On a simplement un mouvement naturel, je dirais, de sympathie. Par ailleurs, si on se place alors d'un point de vue, par exemple, de politique publique de collectivité locale, alors là, je vais donner un avis personnel, je ne peux pas toujours parler avec ma casquette, je me permettrai quelques avis personnels. Une politique du livre d'une collectivité, c'est pas seulement une politique de bibliothèque, c'est une politique du livre, donc ça peut comprendre aussi l'attention à ce que subsiste dans le territoire un maillage de libraires, etc. Hein. Voilà, y compris des éditeurs quand il y en a sur place, etc. Donc il faut avoir vu cette vision un peu large. Donc l'intervention de l'IABD était extrêmement ciblée, donc on va en parler je pense dans la deuxième partie, sur ce qu'on appelle nous, c'est pas beau non plus, c'est aussi moche que les pure players, le B2B par rapport au B2C, c'est-à-dire voilà, business to business par rapport à business to client, c'est-à-dire il y a une logique du prix pour le particulier, et puis nous sommes des collectivités, et on pensait que là, dans cette période un petit peu expérimentale, patouillante, et ben, il y avait une diversité à maintenir, les choses n'étaient pas encore clairement stabilisées, mais je l'expliquerai dans la deuxième partie. Voilà. Il n'y a pas une vision générale sur, je peux l'avoir à titre personnel, comme observateur, à titre personnel, je vais vous dire, mais on en est tous là, on rentre dans l'inconnu. Donc voilà, c'est un autre monde, le numérique. Donc tous les dispositifs qui copient le dispositif du physique sont transitoires, etc., mais peut-être ne subsisteront pas, on ne sait pas, hein. On est tous dans le brouillard, donc voilà. Et on ne fait pas partie des gens qui prennent des risques commerciaux dans le brouillard, donc on a beaucoup de respect pour ceux qui le font. Par ailleurs, moi j'avais une formule personnelle pour mes collègues pour dire les acteurs traditionnels du livre, de la chaîne du livre, ne sont pas forcément nos ennemis, et les nouveaux entrants ne sont pas forcément nos amis. Hein. Voilà. Donc on sait très bien qu'il y a un problème de, dès qu'on passe dans l'univers, depuis que la révolution numérique en réseau, c'est ça. Vous avez des nouveaux entrants, des nouveaux acteurs qu'on n'avait jamais vus. On se retrouve avec les opérateurs téléphoniques, c'est extraordinaire, avec les fournisseurs de téléphone, avec... On n'aurait jamais pensé ça. Donc c'est ça le monde dans lequel on est. Or, dans le nouveau monde numérique, tel qu'il est, tel qu'il se construit petit à petit, et pour le livre, c'est beaucoup plus lent que pour le reste, pour des raisons de pratiques culturelles, etc., dont on pourra parler tout à l'heure, hein, c'est beaucoup plus lent que sur la musique ou autre. Si vous n'êtes pas d'emblée dans le nouveau monde, peut-être que vous n'y serez plus jamais. Donc ce que recherche chacun... Et nous tous, bah c'est le ministère aussi peut-être, c'est d'y être dès le début, voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas, donc voilà l'intervention générale. Bon, je pense que je t'ai répondu.
Une réponse rapide de oui, Geoffroy Pelletier, ensuite une petite pause et on abordera ensuite la deuxième partie qui concernera donc plus spécifiquement les implications de la loi sur les bibliothèques.
Une réponse plus un commentaire, mais certes c'est un monde inconnu et on ne sait pas comment ça va se passer dans les grandes lignes, encore moins dans les détails. Pour autant, ça ne c'est maintenant qu'il faut faire attention et c'est maintenant qu'il faut discuter et légiférer. Parce que la réponse, par exemple, de l'autorité de la concurrence dont parlait Rémi Gémazan tout à l'heure, consistait aussi à dire attendez, le marché n'existe pas, vous n'allez pas commencer à légiférer. Ça, c'est bien une réaction française, on n'a encore rien et on veut déjà faire une loi. Oui, mais si on ne la fait pas maintenant, la loi, les positions, elles vont être prises par les grands opérateurs et après, on n'aura plus le temps. Quand Amazon aura 30%, Google 45% et Apple le reste, que je vous laisse calculer pour ne pas dire une bêtise, on n'aura plus le temps et on nous dira que ce n'est pas la peine de faire une loi puisque vous savez, les cartes sont distribuées, ça ne change rien. Donc c'est maintenant qu'il faut aussi que les auteurs discutent des contrats d'édition avec les éditeurs. C'est pas quand le marché représentera enfin quelques pourcents, le marché du numérique représentera enfin quelques pourcents du marché du livre. C'est maintenant que les libraires, et ils le font, ont intérêt à discuter des remises et de comment tout ça va s'organiser avec les éditeurs. C'est maintenant que les éditeurs ont intérêt aussi à discuter avec les grands opérateurs, les nouveaux opérateurs télécoms, etc., qui vont forcément prendre une place sur le marché. Mais surtout, il ne faut pas qu'on attende, parce qu'en plus, et là je le dis aussi vis-à-vis des auteurs, certains auteurs ont envie de répondre aux sirènes de Google, d'Amazon, etc., et de se dire, à la limite, je pourrais peut-être me passer, moi, de mon éditeur. Je crois qu'on a tous à y perdre, et les auteurs en premier, si on ne continue pas cette chaîne du livre. C'est pas un truc passéiste en disant, ça a bien marché, le numérique, finalement, va rien changer, continuons dans notre petit monde, entre nous, on s'amusait bien ensemble. C'est pas ça, c'est qu'on a vu que ça fonctionnait extrêmement bien, le numérique est un nouveau mode de diffusion, c'est quelque part une révolution, peut-être d'abord dans l'écriture, dans le mode de consommation, etc., mais c'est d'abord une nouvelle adaptation de quelque chose qu'on connaît très très bien, tant qu'on sera dans le livre numérique. Après, quand on sera dans des œuvres qui mélangeront le cinéma, la musique, etc., et qu'on sera très 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 loin du livre, alors on pourra peut-être se poser différemment la question. Mais pour l'instant, dans un livre homothétique et un peu plus, un livre numérique et un peu plus, je pense qu'on a encore tout intérêt à rester dans cette chaîne du livre qui fonctionne relativement bien.
Ah oui, c'est ça, tu posais la question du livre homothétique, hein, j'avais oublié. Bon, oui, ben on en parlait ce matin dans le train. On a comme ça l'intuition, parce que c'est une période qui réclame de la vision, donc on peut avoir de la vision, puis on se plante, on se plante pas. Il y a une vision qui consiste à dire, le livre homothétique, c'est préhistorique, c'est un peu comme les premières automobiles qui ressemblaient à des carrosses. Bon. C'est pas si simple que ça. Peut-être, c'est ce qu'on se disait là ce matin, peut-être qu'avec cette possibilité-là, va naître un art nouveau, comme le cinéma était un art nouveau. Alors c'est très compliqué, ces arts nouveaux, ils ont beaucoup de... d'ayant droit, hein, beaucoup d'intervenants, on sait que tout ce qui est par exemple l'édition multimédia, c'est horriblement compliqué, hein, tout ce qui est ayant droit, etc., les droits voisins, bon, peut-être qu'il y a ça qui va naître, mais en tout cas, l'acte créateur qui consiste à créer un texte qui se prête à une lecture continue, pourquoi donc que ça continuerait pas? Alors là, on est quand même dans l'homothétique, et même si prioritairement, on vendra ça sous forme numérique, on peut imaginer. C'est une forme d'expression. Celle-là, elle vient de loin et il n'y a pas de probabilité qu'elle va disparaître. Donc, en ce sens-là, le livre homothétique n'a rien de ridicule, même dans le monde numérique, parce que même on pourrait même l'éditer d'abord en numérique ou exclusif. En pure player, là, exclusivement numérique, j'en sais rien, moi, si les pratiques de masse se sont installées. Mais c'est du texte continu. Voilà.
Bonjour, un point de détail. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui à peu près comment les éditeurs calculent le prix justement de leurs fichiers selon la catégorie d'éditeur? Vous évoquiez tout à l'heure 30, 40%. Il y a quelque temps, on évoquait des prix. Le prix de vente, oui. Sur lequel se basera le droit d'auteur. Mais on en est où à peu près? Il y avait eu le motif qui avait fait une étude.
Le motif a fait une étude principalement sur le coût de revient.
Le coût de revient.
Le coût de revient. Alors oui. Le coût de revient, là, je suis incapable de vous dire, parce qu'entre ceux qui nous disent que ça coûte 1,50€ de transformer, là, et ceux qui nous disent qu'il y a 40 000% d'investissement, parce qu'on m'a dit qu'il y avait 40 000% d'investissement, ça doit se situer un peu entre les deux, ce qui vous répond de manière très précise. Sur le prix de vente, on est en littérature générale. Pour l'instant, mais je crois autour de 30% de décote par rapport au prix papier. Il y avait une étude sur le prix qu'étaient prêts à payer les consommateurs pour un livre de littérature générale, ouais, moins de 10€. Il y a un point important peut-être aussi là-dessus, et je me suis pas long, mais c'est juste qu'il faut faire attention de pas faire de pas dissocier complètement le prix du livre papier et le prix du livre numérique. C'est bien de vouloir baisser, quand le livre existe encore sous format imprimé et sous format numérique, si on baisse trop le prix du livre numérique pour se dire on va en vendre plus si on baisse le prix du livre, et on sait par ailleurs que il n'y a pas une élasticité au prix qui est très très forte dans le domaine du livre, si on baisse trop le prix du livre numérique, alors ça risque là pour le coup de basculer, mais il faudra qu'on multiplie sacrément le nombre de ventes en numérique pour retrouver le chiffre d'affaires qu'on faisait en livre imprimé. Donc il ne faut pas qu'il y ait une opposition complète. Donc il y a eu quelques éditeurs qui ont commencé à jouer justement là-dessus, à descendre un peu le prix du livre numérique, et jusqu'à un certain point ça faisait un chiffre d'affaires complémentaire au marché du livre imprimé, et c'était très bien, et peut-être même ça touchait de nouveaux lecteurs, pourquoi pas, et ça c'est très bien. Par contre, si on descend trop bas, alors du coup il n'y a plus d'intérêt du tout à acheter le livre imprimé. En même temps, il faut trouver aussi, et puis on ne multiplie pas suffisamment les ventes numériques pour retrouver le chiffre d'affaires. Il faut faire attention aussi que si on ne descend pas suffisamment le prix du livre numérique, un, soit le marché ne se développe pas, soit on provoque un peu le piratage, et du coup là on n'a plus du tout de chiffre d'affaires, et les gens risquent de se diriger vers des offres qui seront beaucoup moins légales. Il y a une opération en ce moment dans la bande dessinée Isneo où ils ont baissé le prix, donc le prix est à 2€, donc c'est un prix de la BD qui est divisé par 5. Ça veut dire que si on veut s'y retrouver, il faut multiplier par 5 le nombre de ventes par rapport à la BD classique. C'est un sacré pari. Et en plus, c'est un pari qui peut fonctionner éventuellement dans la BD, à voir ce qui peut marcher, puisque là, on en discutait là aussi ce matin dans le train, on a fait que ça. Mais ça peut marcher pour la bande dessinée, parce que la bande dessinée est presque, j'oserais dire, le prix est un peu élevé par rapport au temps que vous passez à lire une bande dessinée. Moi, j'achète une bande dessinée à 12€ et je vois que ma fille, au bout de 10 minutes, dit « Merci, c'est bien, j'ai essayé, ça c'est lu. » Et du coup, on peut imaginer qu'en baissant le prix, les gens pourront en lire plus parce qu'ils auront le temps d'en lire plus. Après, il y a des arbitrages en temps sur la littérature générale. C'est pas parce que vous allez baisser le prix en littérature générale que les gens vont trouver le temps de lire 5 romans dans la journée au lieu de... Voilà. Donc c'est pas les mêmes arbitrages, temps-économie, selon les secteurs éditoriaux. Donc il y a des opérations, il y a des paris qui peuvent se faire dans certains secteurs. Et je pense qu'il faut faire attention dans d'autres, parce qu'on va pas augmenter le nombre de ventes, mais par contre on va sacrément baisser le prix du livre. Et dans ce cas-là, plus personne ne s'y retrouvera, ni les éditeurs, ni les libraires, ni les auteurs.
Attends. Une dernière question, et puis on va clôturer la première partie.
Bonjour, ce n'est pas exactement une question, c'est pour préciser quelque chose qui complète ce que vient de dire Geoffroy. On a tous en tête le parallèle avec le marché de la musique. Et il y a des études de GFK assez intéressantes là-dessus qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps. Le marché de la musique en France, en termes de, comment on pourrait dire, d'acte d'achat, ne s'est pas effondré du tout. Ce qui s'est effondré, c'est le prix unitaire de l'achat. Parce qu'au lieu d'acheter un CD à 15€, on achète un morceau sur iTunes à 1€. Collectivement, au niveau français, on en achète à peu près le même montant. ce qu'il y a de nouveau, c'est que le consommateur a regagné la liberté d'acheter un morceau, comme on achetait des singles dans les années 60, au lieu d'être obligé d'acheter un CD. C'est ça la grosse différence. Mais ça ne s'applique pas du tout au livre. En tout cas, plus exactement, ça ne s'applique pas du tout au roman. Ça peut s'appliquer à un certain nombre de choses, comme les livres universitaires, par exemple, qu'on peut vendre au chapitre. Mais ça ne peut pas s'appliquer à un roman. Donc le parallèle avec la musique qui imprègne les esprits au niveau de la baisse de prix, où on dit on passe de 15 euros à 1 euro, est un parallèle extrêmement, comment je pourrais dire, injuste, dont il faut se méfier. C'était cette observation que je voulais faire.
Merci. Mais écoutez, je pense qu'on va clôturer là, cette fois-ci la première partie. On va faire un quart d'heure de pause et puis on se retrouve d'ici un quart d'heure pour la deuxième partie qui va concerner donc les implications plus spécifiquement pour les bibliothèques de cette loi sur le prix unique du livre numérique. Donc, je vous invite à nous rejoindre dans un quart d'heure et on clôturera la table ronde autour de 17h.